Je propose de faire une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 9. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 9, pendant que les pages se tournent. Juste un petit point sur la structure de l'épître aux Romains. Le chapitre 12 marque la fin de ce qu'on appelle le traité théologique de l'apôtre Paul et marque le début du traité pratique. C'est-à-dire que là, Paul va rentrer véritablement dans la vie pratique de l'Église, dans les relations des chrétiens avec les uns avec les autres et des relations des chrétiens vis-à-vis des gens de l'extérieur. Et c'est une autre partie qui est marquée notamment par ce que l'on appelle une doxologie, c'est-à-dire la fin du verset 11, verset 34, 35, 36, vous pourrez le lire chez vous. On voit que l'apôtre Paul clôt un chapitre et en commence un autre. Et au verset 9, il dit la chose suivante, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Amen. Le verset qui a attiré mon attention dans cette longue tirade de l'apôtre Paul, dans ses conseils très clairs, très précis, très concis, se trouve dans le verset 9 « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Voyez-vous, mes frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, nous avons été changés par Jésus. Nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que notre nature profonde a été transformée. De misérables que nous étions, comme dira l'apôtre Paul, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous qui auparavant avions les pieds agiles, avions les pieds qui couraient vers le mal de manière rapide, et aujourd'hui, l'apôtre Paul dit « Ayez le mal en horreur ». Vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes qui se réjouissent de pratiquer le mal, qui aiment cela, qui prévoient le mal, qui anticipent le mal. Mais l'apôtre Paul dira, vous, attachez-vous au bien. Et si nous voulons vaincre le mal, si nous voulons véritablement avoir le mal en horreur, il s'agit pour nous de nous attacher au bien. Le psaume 101, verset 4, version français courant, dit « Je ne veux rien savoir de ce qui est mal, je tiendrai donc les filous à distance. » J'ai trouvé ça relativement savoureux. « Je ne veux rien savoir de ce qui est mal, je tiendrai donc les filous à distance. » Le psalmiste, il est dans cette position de dire « Je ne veux pas que mes yeux se posent sur quelque chose de mal. Je veux éviter que le mal vienne dans ma vie. Je veux éviter que le mal ait un impact dans ma vie d'une manière ou d'une autre. » Alors je ne veux rien savoir de ce qui est mal, mais je veux vivre ce que l'apôtre dira à l'église de Philippe au chapitre 4 et au verset 8. « Enfin, mes frères, que tout ce qui a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées, tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Ayez le mal en horreur. » Pourtant, nous vivons dans un monde qui est régi par le mal. Excusez-moi d'être un peu manichéen. Où finalement, bien des choses sont mauvaises. Tout n'est pas mauvais, mais bien des choses sont mauvaises. Nous sommes influencés par le mal, de par ce que nous voyons, de par ce que nous entendons, et nous pouvons être victimes du mal. Quelle doit être notre attitude? L'objectif de cette prédication, c'est de voir quelle doit être notre attitude par rapport à ce verset « Ayez le mal en horreur ». Le premier point que nous pouvons souligner, c'est que détester le mal, ce n'est pas haïr celui qui le pratique. Nous pouvons être victimes de personnes qui ont l'amour du mal, sur votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre voisinage. Nous pouvons être victimes d'hommes et de femmes qui aiment et qui conçoivent le mal, qui planifient le mal. Mais nous devons toujours nous souvenir que si nous devons avoir le mal en horreur, nous devons aimer celui qui commet le mal. Et je remplacerai le « nous devons » par le « nous pouvons aimer celui qui commet le mal ». Parce que si Jésus nous le demande, c'est qu'il nous en rendra capable. Dieu n'aime pas le péché, nous le savons, de par sa nature sainte. Mais il aime le pécheur et sa personne. Alors, j'aimerais vous dire, à vous qui êtes là peut-être pour la première fois et qui vous sentez sale, bienvenue dans l'Église sainte du Seigneur. J'aimerais vous dire, à vous qui avez peut-être fait du mal, qui avez peut-être meurtri, et à vous qui peut-être êtes tombé cette semaine, bienvenue dans l'Église du Seigneur, parce que Dieu vous aime. J'aimerais vous dire que, tout simplement, si pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez loin de Dieu, bienvenue dans l'Église du Seigneur, parce que c'est celui qui veut vous rapprocher de lui. Parce que Dieu aime les hommes. Dieu aime même les hommes qui commettent le mal. Il n'aime pas leur acte, mais il les a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin qu'ils soient sauvés. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Et si nous le vous disons de tout notre cœur, c'est parce que nous savons une chose. C'est que vous ne resterez pas dans le mal. Mais c'est que Jésus est capable de vous changer. Jésus est capable de vous transformer. Frère, ma sœur, tu es peut-être attaché à un péché. Pornographie, tabac, adultère, pensée mauvaise. Et tu te sens sale ce matin. Si tu laisses le Seigneur Jésus te délivrer, demain ce que tu adules aujourd'hui, ce qui conduit ta vie aujourd'hui, tu l'auras en horreur. Tu le fuiras. Laisse le Seigneur venir dans ta vie. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Nous n'avons pas aimé les pratiques mauvaises, mais nous sommes appelés à aimer ceux qui les pratiquent. Nous pouvons croire que Dieu est capable de changer nos ennemis. Nous le savons et nous le croyons. Ceux qui pratiquent le mal sont esclaves du mal, nous le savons, et ils souffrent de faire le mal. De même manière que nous souffrions de le faire auparavant. Notre vocation, c'est d'être des vecteurs de bénédiction pour eux. Vous remarquez que Paul va paraphraser Jésus et va dire « bénissez ceux qui vous persécutent » et de préciser « bénissez et ne maudissez pas ». Dans notre culture occidentale, le terme de maudire est un petit peu galvaudé. Mais dans le monde antique et au temps de l'apôtre Paul, lorsque les hommes croyaient à la malédiction autant qu'ils croyaient à la bénédiction. Lorsque un homme maudissait un autre homme, cela avait un impact fort. Cela était quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, bénissez et ne maudissez pas. Malédiction, c'est quoi? Maudire quelqu'un, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, prononcer des imprécations contre lui, afin qu'il soit le sujet de la colère de Dieu. Et lorsque, de manière très pratique, un juif était maudit, la conséquence, c'est qu'il était exclu de l'assemblée, et que de ce fait, il était exclu de la bénédiction de Dieu. Il y avait ces deux vecteurs qui étaient présents. Mais même la malédiction était encadrée dans la loi. Le livre du Lévitique, au chapitre 19, au verset 14, dira « Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras pas devant un aveugle, tu mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne maudiras pas un sourd. » C'est étrange, ça. Vous avez déjà réfléchi? Pourquoi est-ce que Dieu dit « Tu ne maudiras pas un sourd ?» Tu as le droit de maudire qui d'autre, tu peux maudire si tu veux quelqu'un d'autre, mais pas un sourd. Parce que le sourd ne pouvait pas entendre la malédiction. Et de ce fait, ne l'entendant pas, il ne pouvait pas demander la bénédiction de Dieu sur sa vie. Tu ne maudiras pas un sourd. La tradition juive prévoyait trois avertissements lorsque quelqu'un devait être exclu de la synagogue. Et lorsque ces trois avertissements n'étaient pas respectés, il y avait une malédiction qui était formulée sur lui et qui se traduisait de la manière suivante. On allumait des lampes et puis on les soufflait afin que, et en prononçant cette phrase, en disant que la lumière divine ne brûle plus sur toi. Ensuite, on prononçait les rabbins, etc., prononçait les gens du Sanhédrin, prononçait les malédictions du Deutéronome. On l'excluait de la synagogue, il n'était plus considéré comme quelqu'un du peuple, il n'avait même plus le droit ni de vendre ni d'acheter. Donc, vous comprenez bien que lorsque Paul écrit aux Romains « ne maudissez pas », pour nous, ça a un contexte un petit peu light. Mais du temps de l'apôtre Paul, du temps de Jésus, c'était quelque chose qui était extrêmement fort. Tant plus que dans l'église de Rome, il y avait des juifs de la diaspora qui étaient là et qui connaissaient toutes ces pratiques-là. Et Paul dit, ne maudissez pas, ne dites pas de mauvaises paroles, ne voulez pas que, ne désirez pas que la colère de Dieu tombe sur votre ennemi, mais au contraire, bénissez-le, dites du bien, ne lui demandez du bien pour lui à votre Dieu. Et du bien pour lui, ça peut être quoi? Ben, qu'il soit justement intégré dans l'église. Hein, qu'il soit intégré dans la synagogue, qu'il soit touché, qu'il soit eh bien visité par l'amour de Dieu. Ne demandez pas que Dieu lui fasse du mal, mais demandez que Dieu lui fasse du bien. Et nous n'oublions pas ce que Paul écrira auparavant aux Romains. C'est que la bonté de Dieu, les bontés de Dieu, nous poussent à la repentance. Dieu a choisi de nous faire du bien pour nous mener à la repentance. Il n'a pas choisi de nous faire du mal. Et nos prières doivent aller dans ce sens pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Seigneur, bénis-les, afin qu'ils puissent être eh bien, richement touchés par ta grâce et réaliser à quel point tu es glorieux. Ne maudissez pas, mais bénissez. Nous avons vocation à appeler la bénédiction sur ceux qui nous font, qui nous font du mal. Et en sachant que nous le faisons, que c'est la volonté de Dieu de le faire, mais que, en définitive, eh bien, c'est lui qui tranchera. Deuxièmement, le chrétien peut leur faire du bien et doit leur faire du bien. Romains chapitre 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez, notez bien le mot, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Jésus nous a enseigné à tendre la joue droite lorsqu'on nous frappait sur la gauche. Jésus nous a enseigné à son peuple que si on nous faisait faire un mille, et vous connaissez l'expression, je l'ai développée à plusieurs reprises, eh bien on devait accepter d'en faire deux. Bref, dans la pensée de Jésus, c'est de dire, eh bien, ton ennemi, fais-lui du bien. Non seulement tu ne dois pas le maudire, mais tu dois demander que Dieu lui fasse du bien. Et vous avez noté la distinction. Mais toi-même, là ce n'est plus Dieu, ce n'est plus de Dieu dont nous parlons, mais c'est de nous. Mais toi, fais-lui du bien. Le bien, comment se traduit-il? Le terme que Paul utilise, c'est le terme grec kalos, qui signifie convenable, honnête et visiblement bien. Donc, il s'agit d'agir envers notre ennemi comme vis-à-vis de tous les autres. My name fait du mal. Ça n'arrivera jamais. Eh bien, je dois agir vis-à-vis d'elle comme j'agirai vis-à-vis de Samuel. C'est exactement la même chose. Et c'est de le faire visiblement. C'est-à-dire de manière que tous les hommes le voient. Et l'apôtre Paul utilisera ensuite cette expression, ça sera comme des charbons que tu poseras sur sa tête. Drôle d'expression, ça. Qui répond à une coutume égyptienne qui voulait que lorsque quelqu'un ait honte, eh bien, en signe de contrition, mette sur sa tête une coupe, un vase, avec toutes sortes de charbons. Et ainsi, tout le monde voyait que cet homme avait un motif d'avoir honte. Et lorsque nous faisons du bien à nos ennemis, nous leur faisons honte. C'est-à-dire que notre bien contraste avec le mal, que eux nous font, et toujours dans le même but, eh bien, de montrer Jésus, d'illuminer son témoignage, et de faire en sorte qu'à un moment ou un autre, l'écart qu'il y a, eh bien, pousse à la repentance. Mais avoir cette attitude-là, c'est également répondre à cet appel que l'apôtre Paul fait. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Vous savez, lorsque l'on nous blesse d'une manière ou d'une autre, le mal se traduit de deux manières. Premièrement, on peut se laisser vaincre par le mal qui nous est fait, par l'acte qui est fait vis-à-vis de nous, et qui génère en nous une forme de sclérose de notre foi. On ne pense plus qu'à ça. On est omnubilé par ça. On ne voit plus que ça. Tu ne vois plus que les crasses de ton collègue de travail. Tu ne vois plus que ce que ta mère peut dire de toi. Tu ne vois plus que les saletés que peut dire ton voisin sur ton compte. Et bref, ça devient une obsession. Et ça devient tellement une obsession que tu en oublies de te réjouir avec ce que Dieu t'a donné. Tu en oublies de louer Dieu. Tu en oublies d'élever Dieu. Mais finalement, ça vient paralyser et peut-être même jusqu'à ce matin dans ton culte. C'est dans ta tête. C'est là. C'est ancré. Et l'apôtre Paul, il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ne vous laissez pas vaincre par le mal que l'on vous fait. Que ce mal-là ne devienne pas pour vous, finalement, une forme d'idole devant laquelle on se prosterne gentiment, tranquillement, ne devienne pas une préoccupation première pour nous. Ça, c'est le premier axe. Second axe, par le mal qui grandit dans notre cœur. Ne te laisse pas vaincre par le mal qui grandit dans ton cœur, c'est-à-dire ce sentiment de vengeance qui est là. Il m'a tapé sur la joue gauche, qu'est-ce qu'il va prendre sur la joue droite? J'aimerais pas être à sa place, hein? Ouh là 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 là! Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que je l'attends à la sortie de l'école? Est-ce que je l'attends à la sortie de l'église? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Et là encore, ce sentiment vient entre Dieu et nous sépare de Dieu. Nous sépare de notre roi. Et c'est notre être intérieur qui, une nouvelle fois, est attaqué et qui, une nouvelle fois, est meurtri. Premier axe, ne pas maudire mais bénir. Demander à Dieu de faire du bien. Second axe, faire nous-mêmes du bien lorsque nous le pouvons. Le considérer comme quelqu'un de normal. Troisième axe, Paul dira, Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Troisième axe, c'est de se dire, voilà mon rôle de chrétien, mon rôle d'enfant de Dieu, et la grâce qui m'est donnée en Jésus-Christ, c'est d'être en paix avec tous les hommes. Ceux qui m'aiment comme ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui ont une tête qui me reviennent comme ceux qui ont une tête qui me revient moins. Ceux avec qui j'ai des affinités, ceux que je connais pas. Bref, mon rôle, c'est d'être en paix avec tous les hommes. Pour cela, on a des outils. Que nous-mêmes, nous apportons la paix. Au travers du témoignage que nous véhiculons. La paix entre Dieu et nos contemporains. On annonce qu'il est possible de faire la paix avec notre Dieu. Que l'homme peut faire la paix avec son Créateur. Et puis, quand cela est possible, être des vecteurs de paix entre les hommes, entre eux. Nous soyons des constructeurs de ponts. Quelqu'un a dit ça un jour. Que le chrétien était un constructeur de ponts. Deux personnes qui se disputent, il y a un fossé qui se crée entre elles, bien, quand nous le pouvons, avec la grâce de Dieu, Et dans les familles, nous savons que c'est assez fréquent. Eh bien, mettons des briques. Et puis, essayons de construire des ponts, de bâtir des ponts. Peut-être est-ce là une de tes missions futures. On peut remarquer une petite nuance. J'ai insisté dessus à la lecture. Autant que cela est possible. Pour faire la paix, il faut être deux. On peut signer un traité de paix avec quelqu'un s'il ne le ratifie pas de son côté. Et l'apôtre Paul l'explique bien. Autant que cela est possible. Si cela ne... Autant que cela dépend de vous, dans la version Colombe. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des paix que l'on voudrait et que l'on ne peut pas avoir. Parce que nous, on est prêt à signer en bas de la page. L'autre n'est pas prêt à signer. Il faut bien le graver dans un coin de notre cœur. Parce que parfois, le diable, il s'y entend très très bien. Pour nous dire, t'as vu, t'es toujours pas en paix avec lui. T'es pas un bon chrétien. T'as toujours pas fait la paix avec ton frère, ta sœur, dans la chair. T'es pas un bon chrétien. Tu es encore en conflit avec un tel, tu n'es pas un bon chrétien. Pour faire la paix, il faut être deux. Nous ne laissons jamais culpabiliser. Trois attitudes qui nous paraissent inhumaines. C'est vrai, lorsque j'ai commencé à prêcher là-dessus, vous dites, ça y est, il est fou. J'en suis pas capable, moi. C'est vrai, moi non plus. Donc, est-ce pour autant que je fais de la moralisation ce matin? Vous me connaissez maintenant depuis un petit moment. Non, c'est pas de la moralisation. Si Jésus le demande, si Paul le demande, c'est que c'est possible. Non pas par nos forces, mais parce que nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes nés. C'est impossible à l'ancien Olivier de le faire. Il ne savait pas le faire. Mais le nouveau, il l'apprend. Il l'apprend. Que nous puissions juste mettre le doigt dans l'engrenage. Jusqu'à présent, tu n'as peut-être pas fait l'effort. Mais mets le doigt. Prie le Seigneur pour ça. Mets les premiers pas et tu verras la bénédiction venir derrière. Les onctions de David. Je dis que c'était ma conclusion ou pas? Non? Oui, non? Non, donc c'est bon, je ne mentirai pas. Les onctions de David. Première onction a été donnée lorsqu'il était... qu'il a été oublié, vous savez. La seconde onction a été donnée quand? Suite à la mort de Saül, alors qu'il ne s'est pas réjoui de la mort de son ennemi. Là, il a composé le cantique de l'arc. Comment des héros sont-ils tombés? Mais c'est un roi apostate, David! C'est celui qui t'a poursuivi, qui a voulu te faire mourir! Et toi, tu l'appelles héros? Comment des héros sont-ils tombés? Deuxième onction. Troisième onction. Elle vient alors, toujours le même principe. On vient lui apprendre qu'Ishbosheth, le fils de Saül, est mort. Et le serviteur qui l'annonce est heureux de l'annoncer. Il dit, chouette, j'apporte une bonne nouvelle au roi. Il va me récompenser. Il va y trouver la mort. Tout simplement parce que David ne se réjouira pas de la mort de son ennemi. Troisième onction. La vie de l'esprit, la bénédiction de Dieu, est également attachée à cette capacité que nous donne le Saint-Esprit de faire cet acte surnaturel qui est de, premièrement, ne pas maudire, mais de demander du bien pour eux. Deuxièmement, de faire du bien. Troisièmement, de procurer la paix. On aurait pu traiter le thème. Je n'ai pas le temps. Ne vous vengez pas vous-même, etc. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur. La bénédiction est attachée à une telle attitude. Et on voit que dans la vie de David, c'est quelque chose qui caractérise l'état de cœur de David. Quand il va demander, y a-t-il quelqu'un de la postérité de Saül à qui je puisse faire du bien, et qu'il va faire venir Mephibosheth, qui avait toute l'attitude pour éventuellement lui ravir le trône, qui aurait pu lui causer des problèmes. Mephibosheth étant le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan. Mais il va le rétablir dans toutes les prérogatives de son grand-père. C'est pour ça que David était appelé, en partie, l'homme selon le cœur de Dieu. Veux-tu être l'homme, la femme selon le cœur de Dieu? Et si le Seigneur est capable de faire ça dans notre cœur, capable de faire ça dans notre vie, il changera bien d'autres choses à côté. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur me bénisse et que nous puissions être de ceux, de celles, qui soyons des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu. Amen.